L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Savez-vous vraiment pourquoi nous fêtons Noël ? Et qui a choisi la date du 25 décembre pour le célébrer ? Autant de questions que de rites. On pourrait citer aussi par exemple le sapin de Noël, dans quelle région est-il né ? Pourquoi les cadeaux ? Et de qui s'inspire le Père Noël ? Si l'origine de ces traditions vous semble un peu floue, vous êtes au bon endroit. L'envie de savoir vous propose une émission spéciale à quelques jours des célébrations de fin d'année. Et pour répondre à toutes ces questions, nous sommes en compagnie de notre invité Olivier Grenouillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Depuis cette année, vous y avez été élu en avril dernier. Merci d'être dans le studio de l'Institut pour nous parler de votre dernier livre, Noël, toute une histoire. C'est publié aux éditions du Cerf. Vous nous entraînez sur plus de 25 siècles pour décrypter l'histoire de Noël. Et ça peut surprendre, mais vous commencez ce livre sur Noël, fête chrétienne par excellence, par l'époque gréco-romaine. Ça peut sembler anachronique, surprenant au premier abord.
Ce retour dans le passé lointain, c'est aussi parce que au XIXe siècle, les folkloristes, qui ont joué un rôle très important parce qu'ils ont collecté quantité de traditions qui, à l'époque, commençaient à disparaître, les folkloristes donc ont écrit et répété à l'envi que finalement les fêtes chrétiennes, et notamment Noël, s'étaient finalement inscrites dans le sillage de rites pré-chrétiens. Voilà. Et donc, il était nécessaire d'aller voir dans l'Antiquité pour vérifier ou non cette hypothèse. Et puis aussi parce que finalement, même si ce sont des fêtes différentes, les antestéries grecques et les saturnales romaines célèbrent des choses différentes. C'est plutôt le retour de la lumière solaire, finalement, le retour du cycle des saisons.
Avec la fin de l'hiver.
Voilà, c'est cette période intermédiaire où finalement l'hiver n'est pas encore fini, le printemps n'est pas encore là, et une période d'incertitude, d'angoisse et d'espoir. Voilà. Et donc il y avait ces deux fêtes, hein, antestérie grecque et saturnale romaine, qui sont dans ce moment de l'hiver très, très périlleux, et qui finalement, ces fêtes, on y retrouve ici ou là, c'est un caractère qui ensuite sont devenus des caractères de notre Noël. Par exemple, d'abord le calendrier, à partir du calendrier julien, et du fait que les saturnales romaines peu à peu coïncident avec les fêtes de calendre de janvier, eh bien finalement, on commence à donner des étrennes, des strenae, le 1er janvier, comme on le fait ensuite en Europe pendant des siècles. Et puis aussi, il y a dans ces fêtes grecques, et surtout dans les fêtes romaines et saturnales, une dimension privée. Ce sont des fêtes qui sont civiques, des fêtes de la cité, mais qui se fêtent aussi dans le cadre intime de la domus, de la maison. Et on a l'habitude, encore une fois, depuis les strenae, les étrennes romaines, de donner ce jour-là des cadeaux aux enfants. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs aspects. Le cadre familial, les cadeaux, qui sont là, finalement, depuis très, très longtemps.
Et puis, il y a aussi de grandes différences avec Noël. Ce sont des fêtes où on boit beaucoup. Par exemple, les Saturnales romaines, ce sont des fêtes qu'on a tendance à associer à l'excès, à la débauche. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, de faux dans tout
ça ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est presque un synonyme d'excès en tout genre. Et il est vrai également que dans la fête des antestéries grecques, le premier jour, c'est l'ouverture, finalement, des pichets. Le second jour, la fête des pichets, où il y a un concours, c'est à celui qui va boire le plus rapidement une quantité importante de vin. Mais néanmoins, il ne faudrait pas réduire ces fêtes à ces dimensions finalement de débauche. Ce sont des fêtes très symboliques, encore une fois, qui symbolisent pas simplement le passage d'ailleurs entre la fin de l'hiver et les débuts du printemps, qui symbolisent une sorte de banquet entre les hommes et les dieux, une sorte de contrat qui se renouvelle entre les hommes et les dieux, de contrat qui se renouvelle entre les hommes eux-mêmes. Voilà. Et donc une dimension, je dirais, sociale très forte, qui n'est pas simplement une dimension solaire, végétative et naturelle. Mmh. Voilà.
Mais alors, quand est-ce que les premiers Noël au sens chrétien du terme, c'est-à-dire associés à la naissance, à la nativité du Christ, vont être organisés ? Est-ce que certains disent que c'est l'Église qui l'a imposé pour contrer toutes ces fêtes païennes dont on vient de parler ? Ça aussi, c'est à remettre en perspective.
D'abord, ce qui peut surprendre, c'est que pour nous, Noël, c'est la fête de la nativité du Christ. Bon, dans toutes les langues d'ailleurs, les termes utilisés le disent. Mais il faut attendre 4 siècles. 4 siècles pour qu'officiellement, l'Église de Rome décide de faire de la nativité du Christ une fête officielle.
Pourquoi on attend aussi longtemps pour en faire une fête officielle ?
Bah d'abord, sans doute parce que l'Église n'est pas encore devenue institution. Et puis aussi parce qu'à partir du IIe siècle, il y a une revendication en Orient. On souhaiterait que le 6 janvier, où l'on fête à la fois la naissance de Jésus, le miracle des noces de Cana, où l'eau est transformée en vin, et le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Et donc il y a cette volonté au IIe siècle d'officialiser cette fête du 6 janvier. Voilà. Le problème, c'est qu'en 325, au Concile de Nicée, on définit le dogme de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Et le Fils est divin dès le début. Or, certains, finalement, qui voudraient insister sur la Saint-Jean-Baptiste, certains pensent que, finalement, le caractère divin du Christ n'apparaît que lors du baptême, lorsque le ciel s'ouvre, une colombe symbolisant l'Esprit Saint descend. Voilà. Et cette croyance est contraire au dogme défini à Nicée. Et c'est sans doute pour cela, d'ailleurs, pour des raisons internes au dogme chrétien, et pas du tout pour contrer des rites païens, qu'on décide à Rome de célébrer officiellement la nativité du Christ. Et alors, il y a une question qui se pose, mais quand est-ce qu'il est né le Christ ? Parce que les pères de l'Église, auparavant, comme Origène, certains se disaient, mais c'est une question impie. L'essentiel, c'est de savoir lorsqu'on entre, pénètre dans le ciel. Et donc, on ne s'était jamais vraiment posé à la question de la date de sa naissance.
Et alors, pourquoi le 25 décembre ? Pourquoi on a choisi cette date, précisément ?
Oh, il y a quantité de théories, si vous voulez, mais pourquoi le 25 décembre ?
Il y a plein de réponses possibles.
L'explication la plus plausible, hein, il me semble, c'est qu'il faut d'abord se rendre compte que dans la Bible, il n'y a pas de fraction. On raisonne par année entière. Toute fraction est synonyme d'imperfection. Et donc, on a l'habitude de voir des personnages qui meurent le jour où ils sont nés. Voilà, la naissance est le 3 janvier, et bien la mort est aussi le 3 janvier. Or, on sait à l'époque que les premiers chrétiens placent la passion du Christ le 25 mars, et donc, la naissance du Christ, vous me direz, aurait dû être placée le 25 mars aussi.
Et oui.
Sauf que Concile de Nicée, dogme de la Sainte Trinité, bien contrer finalement les hérétiques qui pensent que c'est après le baptême simplement que Jésus est divin, eh bien, on fixe au 25 mars, non pas la naissance physique, mais l'annonciation, la conception divine, pour bien marquer que Jésus est divin dès sa conception. Et si finalement la conception est le 25 mars, eh bien la naissance est 9 mois plus tard, le 25 décembre.
Il y a une forme de symétrie quand même qui est conservée. Alors Noël va progressivement s'imposer dans les consciences et les pratiques. Il faut pas moins tout de même de 14 siècles pour que cet ancrage se fasse. C'est très long. Comment la fête va finir par s'imposer par les pratiques, par le narratif aussi qui est utilisé, par les personnages récurrents qui vont revenir à travers les siècles ? C'est tout ça ?
Alors, la fête de la Nativité prend racine assez vite. Dès le second siècle, il y a une sorte de pèlerinage. On commence à vénérer la grotte où le Christ serait né. La première crèche, finalement, permanente, c'est au 7e siècle, dans l'église Sainte-Majeure de Rome. Et puis, dès le 4e siècle, on a sur des sarcophages, par exemple, l'apparition de la figure de l'âne et du bœuf. Mais l'âne et le bœuf, comme quantité d'autres éléments, associés pour nous la nativité, n'apparaissent pas dans les évangiles. Dans les évangiles, on dit très très peu de choses, finalement. Et c'est en puisant dans les apocryphes, des textes non reconnus officiellement par l'Église, que finalement les fidèles s'approprient les mystères de la naissance, parce que c'est très compliqué, très mystérieux, et donc les fidèles ont besoin de concret, hein, donc l'apparition de l'âne et du bœuf, les mages qui au départ sont simplement mages, Tertullien au IIIe siècle dit qu'ils sont presque rois, il faut attendre le Xe siècle dans l'Empire ottonien pour que l'idée que les mages sont rois s'enracine. Donc vous voyez, tout ça prend du temps. Et petit à petit, finalement, je dirais que les personnages, entre guillemets, de la scène noélique, parce que ce sont des personnages vivants comme l'âne et le bœuf, mais c'est également la grotte qui devient l'étable, tout cela, finalement, se met en place petit à petit et permet de rendre sensibles les mystères de la nativité. Et donc de populariser, finalement, ces mystères.
Il y a aussi la figure de l'enfant Jésus, ce bébé qui attendrit aussi.
Oui, oui, tout à fait. Même si dans l'art médiéval, dans la période ancienne, les figures du Christ, d'ailleurs, il est très peu représenté enfant au départ, mais lorsqu'il l'est, il est représenté de face, un visage hiérarchique, figé, parce que finalement, tout mouvement et tout élément un peu charnel est considéré comme impur. Il faut attendre un peu de temps, notamment le 13e et surtout 14e siècle, pour voir apparaître des visages, des représentations picturales de Jésus sous forme d'un nourrisson plus attendrissant.
Alors on va parler des cadeaux aussi, des cadeaux de Noël. Vous en parliez tout à l'heure avec l'époque gréco-romaine, mais j'imagine que voilà, leur histoire est plus longue que ça. D'où viennent-ils ?
À l'époque des Saturnales, ce sont donc les strenae, les étrennes, que l'on donne aux enfants. Ça dure 3 jours, donc à l'occasion du début de l'année, début janvier. Et puis finalement, cette habitude des étrennes, après, elle passe un peu sous nos radars, on ne la voit plus vraiment, mais on la voit à nouveau très importante au XIXe siècle. Au début du XXe, c'est l'affiche de la Samaritaine, je crois, en 1909, où on a dit qu'en très grand, le mois des étrennes, 7 décembre, 6 janvier. Et donc, ça veut dire qu'en 1909, encore, on confond un petit peu cadeau d'étrennes et cadeau de Noël. Tout est comme ça dans cette longue histoire, finalement, des rites et traditions de Noël. Il y a des choses qui apparaissent à un moment donné, les étrennes romaines, qui semblent disparaître, qui réapparaissent à une autre époque. Voilà. Quant aux vrais cadeaux de Noël, les vrais cadeaux de Noël, au XIVe et XVe siècle, on donne des cadeaux aux pauvres et aux malades dans les hospices, sous forme de gâteaux d'épices, ce sont des aliments sucrés. Et puis, lors des mystères. Alors les mystères, ça apparaît à partir du IXe siècle, ça se développe surtout au XIIe siècle, dans la France du Nord, de l'Est, en Wallonie, etc. Et ce sont des représentations théâtrales, finalement, du mystère de la nativité. D'abord, ces mystères sont joués dans les églises, puis à l'extérieur, sur le pavé des églises, des cathédrales. Et c'est lors de certains de ces mystères, au XIVe siècle et au XVe, que l'on voit, dans certaines pièces, des bergers donner des cadeaux à Jésus. Un peu plus tard, à la fin du Moyen-Âge, on voit des gens ordinaires, aussi à l'occasion de Noël, donner des cadeaux mais en nature, hein, du lait, du pain, etc., à l'enfant Jésus. On ne sait d'ailleurs pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est pour participer au mystère de la nativité? Est-ce que c'est pour s'attirer des bonnes grâces? On ne sait pas. Mais en tout cas, donc, les cadeaux au départ, c'est plutôt aux pauvres, aux malades, et puis à l'enfant Jésus. Jusqu'à ce que Saint-Nicolas se mette subitement à distribuer des cadeaux aux escoliers, c'est-à-dire aux clercs des chapitres des cathédrales. Et cela, c'est pas avant, finalement, le XIVe siècle.
Alors, un mot sur Saint-Nicolas, qui est-il, d'où vient-il? C'est une figure très, très populaire.
Alors, justement, Saint-Nicolas, c'est intéressant parce que, avec ce livre sur Noël, j'ai voulu offrir un cadeau un peu au lecteur. Cadeau parce que ça voyage dans le temps, dans l'espace, hein, 2500 ans. On passe du Proche-Orient, la nativité du Christ, aux Amériques, avec Santa Claus, et on revient en Europe. Un cadeau aussi parce que, bon, on sait répondre à mille une questions qu'on se pose naturellement sur Noël, mais aussi, il me semble que le cadeau, c'est de donner à comprendre les choses. Parce qu'il y a tellement de rites de tradition, une sorte de palimpseste, ce qui est la quantité d'écritures qui se superposent, ce qui fait que finalement, parfois, on peut être perdu comme dans un labyrinthe. Et je dirais que dans ce livre, j'ai voulu raconter des histoires. Et donc, Saint-Nicolas, j'y reviens, je raconte ces miracles. Hein, puisque Jacques de Voragine, au XIIIe siècle, dans le livre, dans la Légende dorée, les cite, les mentionne ces miracles. Mais au-delà du merveilleux, ce qui est important, c'est de se rendre compte que Saint-Nicolas, pendant 1200 ans, il fait des miracles et rien d'autre. Je dirais, c'est déjà pas mal. Mais il fait des miracles et il s'intéresse relativement peu aux enfants. Et les enfants, le miracle des 3 jeunes mis au saloir par un boucher, 3 enfants qui vont se promener, qui se perdent, ils frappent à la porte d'une maison, c'est un boucher qui leur ouvre, et le boucher les découpe en morceaux, les met au saloir. Quelques temps après, Saint-Nicolas arrive. Le boucher veut lui servir à manger, et lui, Saint-Nicolas, non, dit, voilà, il pointe le saloir du doigt, et d'un geste, il ressuscite les 3 enfants qui semblent sortir d'un long sommeil. Voilà. Donc ça, il faut le raconter, bien sûr. Mais il faut se poser une question. Pourquoi Saint-Nicolas, qui auparavant faisait des miracles, distribue des cadeaux? Et comment ce processus se met en place? je le disais tout à l'heure, sont d'abord les écoliers, les jeunes des chapitres cathédraux qui reçoivent des cadeaux de Saint-Nicolas. Et quand on s'intéresse au temps long, comme je le fais dans ce livre, et à une approche globale où on essaie de voir tous les aspects du sujet en même temps, il y a des pièces de puzzle qui se recollent, qui n'étaient pas collées auparavant. Et donc surgissent des questions nouvelles auxquelles il faut apporter des réponses. Et pourquoi Saint-Nicolas distribue-t-il les cadeaux aux écoliers ? La réponse la plus plausible est en rapport avec une coïncidence chronologique.
C'est-à-dire
que lorsqu'il commence à distribuer des cadeaux aux écoliers, c'est le moment où les fêtes des fous disparaissent parce qu'elles seront interdites. Et les fêtes des fous, c'était ces écoliers, ces jeunes clercs des chapitres cathédraux qui, à l'occasion de Noël et de la fin de l'année, allaient parfois même enfoncer des portes pour demander une petite pièce, un petit gâteau, etc. Et puis, dans les églises, dans la cathédrale, on élisait une sorte de pape de la déraison. Ces jeunes revêtaient les habits, finalement, de l'évêque. Et puis, on parodiait des scènes de la Bible. Et lorsqu'on interdit cela, Saint-Nicolas distribue des cadeaux.
On peut
se dire que c'est une coïncidence chronologique. Et en histoire, toute coïncidence ne veut pas dire relation de cause à effet. Mais quand même, la distribution des cadeaux de Saint-Nicolas aux écoliers vient à un point nommé pour compenser, entre guillemets, l'interdiction des fêtes des fous.
Et ce Saint-Nicolas ne se déplace jamais sans son double malfaisant qui punit les enfants au passage. Les cadeaux, ça se mérite avec Saint-Nicolas.
Oui, tout à fait. Les enfants sages, et seulement eux. Et là aussi, il n'y avait pas que les écoliers qui étaient un petit peu turbulents dans les chapitres des cathédrales. Dans les villages, il y avait ce qu'on appelle les guisards, des bandes d'enfants déguisés, d'où guisards. Et qui, à l'occasion même aussi de la fin d'année, Noël, allaient frapper de porte en porte, en groupe, pour demander là aussi des aliments, etc. Et quand Saint-Nicolas et d'autres donateurs surnaturels, parce qu'il y en a d'autres dans l'Europe, chaque pays, chaque région presque a son donateur surnaturel, quand ces personnages se mettent à distribuer des cadeaux, eh bien dans les campagnes aussi, ces bandes de guisards s'évanouissent. Et ce qui change, c'est que au lieu de cadeaux donnés par des adultes à des bandes de jeunes qui les forcent un peu, on a avec Saint-Nicolas et les autres donateurs surnaturels des personnages puissants, puisque surnaturels, qui distribuent, s'ils le souhaitent, aux enfants seulement sages, des cadeaux. C'est sans doute à mettre en rapport avec une conception d'éducation un peu punitive de l'époque, et puis avec ce XVIIe siècle qui est celui du grand renfermement. Les pauvres qui étaient l'image du Christ, au XVIIe siècle, on essaie de le mettre à travailler dans des hospices. Et finalement, l'apparition de ces cadeaux qui tombent du ciel, cela permet à la ville, dans la cathédrale, comme à la campagne, dans les villages, de mettre fin au tumulte de ces bandes de jeunes. Et pour répondre aux questions, oui, Saint-Nicolas, suivant les régions, en Allemagne, par exemple, dans les terres allemandes, c'est Knecht Ruprecht qui l'accompagne. Avec des chaînes, il ressemble à une sorte de démon. D'autres régions sont d'autres personnages qui parfois sont munis de verges, qui peuvent battre les enfants qui n'ont pas été sages, qui peuvent parfois les emporter dans leur hôte. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Saint-Nicolas, donc, est associé à un double malfaisant. Mais dans d'autres régions d'Europe, c'est un seul et même personnage avec un double visage. La tante Harry. La tante Harry, en Franche-Comté, elle distribue des cadeaux aux enfants encore dans les années 1120. Eh bien, la tante Harry, c'est à la fois un personnage bizarre, puisqu'elle a des pattes d'oie et des dents de fer. Mais c'est une gentille fée montée sur un âne et a distribué des cadeaux. Vous voyez, un même personnage avec un aspect qui rappelle un peu les sorcières, un peu inquiétant, et puis un aspect sympathique. En Italie, c'est la Befana, et c'est une fée gentille qui distribue des cadeaux, mais elle se déplace quand même sur un balai. Ça rappelle aussi les sorcières.
Et elle distribue du voilà. Charbon, c'est ça
Et les enfants qui sont pas sages, c'est du charbon.
Alors tout à l'heure, vous parliez du 19e siècle, qui est une date importante, puisque c'est à ce moment-là que le Noël moderne, capitaliste et bourgeois, prend son essor. Ça, c'est un tournant important, le 19e siècle, dans l'histoire de Noël.
Alors c'est un tournant important dans la fête, je dirais, la fête profane qui scelle Noël aujourd'hui, puisque le cadeau n'apparaît pas. Il y avait des cadeaux, les Srenae, donc à l'époque romaine. J'ai parlé des cadeaux donnés par les humbles personnes à l'enfant Jésus, aux pauvres, etc. Mais simplement, le cadeau à partir du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle, on lui donne à profusion. Et il y a tout un marché. Il y a les premières cartes postales de Noël en 1843, il y en a 1000 à l'époque. Il y a les grands magasins, la publicité. Donc ça devient une affaire commerciale, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, le capitalisme ne transcende pas simplement Noël par ses aspects simplement, je dirais, matériels. Il fait évoluer le rite aussi. Auparavant, les cadeaux n'étaient rarement emballés, ou juste quelque chose de très très simple. Avec l'emballage plus sophistiqué des cadeaux, apparaît un rite nouveau à Noël, qui est celui du déballage. C'est le moment que tout le monde attend, où on regarde l'être cher qui va voir le cadeau, est-ce qu'il va être surpris, est-ce qu'il va être heureux ou pas. Et vous voyez, ce Noël nouveau invente également des rites, transforme des choses aussi. La lumière, elle est présente dans les rites noéliques depuis toujours. Ça peut être la lumière solaire, ça peut être la lumière de l'étoile pour les premiers chrétiens dans les catacombes, ça peut être la lumière de l'Esprit-Saint, ou ça peut être la lumière du sapin électrique. On appuie sur un bouton, et la lumière est comme si l'homme se faisait des murges. Mmh. Et puis l'apparition, on discutera peut-être après, de Santa Claus, enfin du Père Noël moderne. Mais je dirais que parallèlement à cela, tout ça c'est très connu, voilà, mais parallèlement à cela, on ne met pas suffisamment l'accent sur le fait que, paradoxalement, c'est au 19e siècle ou début du 20e siècle que s'affirment avec Noël des caractères et des valeurs contraires à celles de la société marchande. Dans une société marchande, on donne quelque chose, on reçoit quelque chose, ça, la valeur compte. À Noël, le cadeau est un don. Celui qui donne le cadeau, théoriquement, il est masqué, on ne sait pas qui c'est, puisque c'est Père Noël. Le cadeau comme don, c'est surprenant dans une société uniquement marchande. Lorsqu'on critique, à juste titre parfois, la surconsommation à Noël, mais ça rappelle un peu le potlatch de société traditionnelle, où on détruit presque de manière symbolique des biens, et cette surconsommation, elle annihile en quelque sorte la valeur de l'objet. Quant à l'esprit de Noël, c'est Charles Dickens. Charles Dickens, en 1843, dans Christmas Carol, un chant de Noël, qui la première fois parle de cet esprit de Noël. Alors l'esprit de Noël, tel qu'on le conçoit à l'époque, il le dit crûment, Dickens, hein, je cite presque en substance, c'est parce qu'à Noël, les personnes qui appartiennent à des catégories sociales différentes ne se considèrent plus comme appartenant à des races différentes, mais comme faisant partie d'un même cheminement. Mmh. Voilà. Donc l'esprit de Noël au XIXe siècle, c'est aussi la trêve sociale dans un monde marqué par la prolétarisation. Donc Noël, au XIXe siècle, c'est à la fois le début d'une fête marchande et en même temps un moyen symboliquement, de manière éphémère, de contrecarrer ces mêmes valeurs marchandes.
Et c'est un moment de célébration de la famille aussi, ces déballages de cadeaux là, dont vous parliez à l'instant. C'est un moment qui se fait en famille, c'est une valeur aussi qui est célébrée à ce moment-là.
Oui, sauf que les cadeaux, à l'époque des saturnales romaines, les calendes de janvier, on les donnait aussi en famille, aux enfants. À la campagne, comme à la ville, à l'époque moderne, avant la Révolution française, Noël, c'était déjà une fête en famille. C'était soit le plus jeune, soit le plus âgé de la maison, à la campagne, qui mettait la bûche dans la cheminée. Donc, la dimension familiale est présente, je dirais, depuis toujours. Mmh. Simplement, c'est pas la même famille. À l'époque, à partir du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la famille nucléaire. Le père, la mère et les enfants. Une famille plus recentrée sur elle-même. Et justement, le Père Noël. Ah. Son rôle n'est pas négligeable dans l'affaire. Dans cette famille nucléaire qui se resserre sur elle-même, qui oublie un peu la tradition, les ancêtres, le Père Noël, c'est un personnage d'un âge vénérable, figé dans un âge vénérable, qui rappelle, c'est le Père, mais qui rappelle les ancêtres. Et donc, c'est un moyen de relier cette famille nucléaire resserrée sur elle-même avec les ancêtres.
Bah oui, on dit toujours que le Père Noël, ce serait Coca-Cola qui l'aurait inventé. Son origine remonte quand même à bien plus loin. Et vous parlez de Saint-Nicolas. Vous reliez la figure du Père Noël à celle de Saint-Nicolas.
Alors, il faut savoir que, par exemple, la première entrée Père Noël dans le Nouveau Larousse illustré, c'est 1904. Coca-Cola, le Père Noël, Santa Claus, Coca-Cola, c'est 1931-32. Alors, il est vrai que c'est aux États-Unis que, finalement, la figure de notre Père Noël s'est forgée. Mais c'est d'abord une affaire européenne. C'est le Saint-Nicolas néerlandais qui a introduit, vers les années 1800-1810, sur la côte est des États-Unis, qui devient le patron de la ville de New York et qui, petit à petit, devient le Père Noël américain. Mais c'est d'abord, simplement, à Saint-Nicolas. Il fume la pipe hollandaise, il est vêtu de pantalons courts et bouffants, et puis il est guère plus grand qu'un elfe.
Et ça, il est tout petit.
Il faut attendre 70 ans pour qu'aux États-Unis, ce personnage se transforme petit à petit et revêt l'aspect d'un vieillard sympathique, avec des grosses joues, etc. Mais c'est passé au départ. Et au départ, c'est bien un mouvement de l'Europe aux États-Unis, une transformation aux États-Unis de ce personnage, une réimplantation de ce même personnage en 1950 en Europe. Mais là aussi, il ne faudrait pas considérer que c'est simplement un phénomène de transplantation. C'est quand ce Père Noël américanisé arrive en Europe, dans les 1950, chaque région d'Europe a déjà, depuis un siècle ou deux, ses donateurs naturels. On a déjà un Père Noël, encore une fois, en 1904, dans Larousse illustré. Ce Père Noël américanisé ne vient pas finalement s'implanter sur un espace vide. Il vient petit à petit supplanter des traditions nombreuses et anciennes. Et pas partout. En Grèce, c'est Saint Basile, le 1er janvier. En Espagne, ce sont les rois mages qui distribuent les cadeaux.
Un mot sur le sapin Noël dont on n'a pas encore parlé, mais ce sapin de Noël, son origine est implantée plutôt en Allemagne, dans les régions germaniques. C'est ce que vous nous expliquez dans le livre.
Alors oui et non, parce qu'au XIXe siècle, les Allemands s'enorgueillissent d'être les inventeurs du sapin.
Oui.
Puisque les caractères de la fête de Noël d'aujourd'hui naissent en partie au XIXe siècle, c'est l'époque aussi des nationalismes. Et donc, certains pays essaient de s'approprier finalement un aspect de Noël. Le sapin serait allemand, le chant de Noël serait anglais, etc. Alors, les choses sont plus compliquées. Les premiers sapins utilisés à Noël, dans les hospices, c'est plutôt en Alsace, 14e, 15e siècle. Ensuite, il y a un mouvement qui fait que l'habitude se propage en terre allemande, mais pas avant le 18e siècle. Et après, ça prend une ampleur considérable en Allemagne, notamment dans les milieux princiers. Et comme les familles princières d'Europe sont associées par mariage, finalement, l'habitude du sapin à Noël se répand dans les cours princières, notamment de l'Allemagne à l'Angleterre, à la France aussi. Et ce qui fait que même Dickens, en 1843, il écrit le sapin comme une sorte d'habitude allemande. Donc c'est rentré dans les mœurs. Mais initialement, c'est loin d'être une invention uniquement allemande. Et je dirais que les premiers sapins, parmi les premiers sapins, rappelle l'arbre du jardin d'Éden, puisqu'on met du paradis, oui, mais en même temps, l'arbre défendu, puisque au départ, sur les arbres de Noël, on a des pommes rouges qui symbolisent le péché impossible. Voilà.
Je reviens au Père Noël. Vous dites dans votre livre, dans un monde où le religieux décline, notre Père Noël apparaît comme un compromis plus ou moins acceptable entre des perceptions confessionnelles, païennes et laïques.
Oui, parce que ce Père Noël-là n'est plus un saint, ce n'est plus Saint-Nicolas, même si dans beaucoup de régions d'Europe, Saint-Nicolas est toujours présent. C'est un personnage naturel, mais qui n'est pas donc sacralisé. C'est un roi, la couleur écarlate, mais un roi qui ne gouverne pas, qui est gentil. Donc finalement, c'est une sorte de compromis. Ce qui fait que, par exemple, il y a eu beaucoup de réactions contraires à la célébration de Noël, à bord du Noël chrétien, lors de la réforme protestante. En 1574, Angleterre menace d'excommunier toute personne qui célébrerait Noël. Les puritains dans le Nouveau Monde aussi étaient très en retrait par rapport à Noël, fête papiste. Dans l'entre-deux-guerres, les mouvements libre-penseurs, et puis l'entre-deux-guerres, le régime totalitaire, sont opposés à Noël. Et puis, même dans certains milieux chrétiens, en 1951, sur le pavillon de la cathédrale de Dijon, on brûle en grande pompe une effigie du Père Noël. Parce qu'on pense ou on a peur que le Père Noël vienne concurrencer le fait que Noël soit d'abord et avant tout la fête de la nativité du Christ. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Je dirais qu'il n'y a plus d'opposition chez les chrétiens par rapport aux fêtes de Noël. Encore une fois, parce que le personnage du Père Noël n'est pas un concurrent de l'enfant Jésus.
Ils peuvent cohabiter ensemble.
Ils peuvent cohabiter.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui regrettent la magie de Noël d'antan? Ceux qui regrettent ce temps où on se contentait de manger une orange, tout ça, ça relève du fantasme?
C'est d'abord une invention, une tradition. Parce que bon, des oranges, on ne trouve pas beaucoup dans un cadeau des Noëls anciens. Et puis, c'est oublié qu'une orange au 19e siècle, c'était un fruit rare, et c'était rare et relativement cher. Et que ce n'était pas finalement rien du tout. En fait, ça montre surtout que Noël s'est enraciné et est devenu un mythe créateur de nostalgie.
Et vous, à titre personnel, Olivier Cornu, est-ce que vous êtes, vous continuez à être porté, transporté par l'esprit de Noël, par cette fête, cette célébration?
Alors, porté, transporté, je ne sais pas, mais Noël, c'est un moment particulier. On m'a demandé parfois qu'est-ce qui était le plus important pour moi à Noël, par rapport aux différentes traditions, mais je dirais que c'est plutôt l'esprit de Noël, que chacun peut décliner à sa manière. Ça peut être une trêve, une communion, profane ou sacrée, mais voilà, Noël, c'est surtout l'esprit de Noël.
Merci beaucoup Olivier Grenouillot. Je ne peux que recommander votre livre pour ceux qui veulent se plonger encore plus loin dans les rites, dans les traditions de Noël. Je rappelle son titre, Noël, toute une histoire. Et pourquoi pas une idée de cadeau à remettre sous le sapin, parce qu'en plus d'être un livre très savant, il est très bien illustré et très agréable à lire. C'est à retrouver aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
Merci.
Canal Académie.